Et je sais que Jean de Glignasti le fait également. Il est un ancien ambassadeur en Russie. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et vous avez notamment publié Géopolitique de la Russie. C'était aux éditions Erol. Jean de Glignasti, peut-être une réaction sur ce que vient de dire Camille Magnard au sujet du procès du metteur en scène et réalisateur Kirill Serebrennikov aujourd'hui en Russie.
En Russie, vous avez des forces très conservatrices, appuyées en partie sur l'Église, appuyées sur les structures de force. Et puis, vous avez d'autres forces qui sont plus libérales. La culture russe a toujours été une dialectique, une succession d'événements entre répression et récupération des artistes dans le roman national. Donc, ce qui est intéressant dans ce qui se passe actuellement en Russie, c'est que les deux choses arrivent pratiquement en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a des procès, souvent organisés par l'Église orthodoxe ou par la partie les plus conservateurs, la plus conservatrice de la société, Nachi, etc. Et en même temps, vous avez la mise en valeur du patrimoine, de l'apport de ces acteurs ou de ces artistes, compositeurs, écrivains, dans le patrimoine national. Et c'est un phénomène qui est un peu nouveau. En général, il fallait attendre 40 ans ou 50 ans pour que le type qui avait été au goulag soit récupéré dans le roman national. Là, ça se fait pratiquement en même temps.
Mais sinon, c'est le même mouvement de balancier, parce qu'on l'avait avant, je ne sais pas moi, avec un romancier journaliste comme Vassili Grossman, avec un compositeur comme Shostakovich. Oui. Est-ce que c'est la même chose?
C'est la même chose, sauf que l'histoire s'est accélérée, ça se passe très très vite. Et alors, il y a aussi quand même un élément nouveau, c'est que en fait, l'arbitrage entre ces forces se fait par les autorités. Cet arbitrage n'est pas toujours dans le même sens. Le ministre de la Culture, qui est un homme extrêmement traditionnaliste, Monsieur Odinski, à certains moments a apporté son soutien à certains artistes qui avaient été trop critiqués par la partie, traditionnelle de l'opinion. Là, manifestement, le balancier penche plutôt du côté des conservateurs.
Jean de Glignasti, aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est l'influence russe sur l'élection américaine. C'est aussi peut-être une manière de rappeler que l'influence américaine en Russie n'est pas non plus un vain mot.
Alors, il est clair que tous les élites urbanisées de Russie vivent selon un modèle, ont dans la tête en tout cas des valeurs américaines et un modèle américain. Les blockbusters américains font plus de 50% du marché, les restaurants McDonald's ont fleuri et sont considérés comme quelque chose un peu à la mode, un peu moins maintenant. Et donc, malgré une culture de guerre froide qui commence à apparaître qui est depuis déjà quelques années dans les médias et partout, il n'en reste pas moins que mentalement l'élite russe est mondialisée. Voilà, elle est peut-être pas américanisée, mais elle est mondialisée. Mais la mondialisation, c'est quand même l'Amérique qui la dirige. Donc, à vrai dire, il suffirait que les États-Unis lèvent un peu le petit doigt dans les relations avec les Russes pour que, en fait, beaucoup de gens se jettent à leurs pieds.
Et justement, parce que ça renvoie un vieux livre qui s'appelait Vodka Cola de Charles Levinson, publié il y a une vingtaine d'années, Jean de Glignasti, justement, on a l'impression qu'à cet égard, les choses se sont un peu renversées, puisqu'on a le souvenir d'une guerre froide, on a le souvenir d'un rapprochement. Aujourd'hui, on se retrouve à la fois dans une situation où on nous expliquait que la guerre froide était à nouveau en cours, et puis on se rend compte qu'il y a finalement aujourd'hui un président américain, Donald Trump, qui a été peut-être élu en étant favorisé par le Kremlin. Que sait-on aujourd'hui au juste sur ce qui s'est passé ?
Pas grand-chose, à vrai dire. Enfin, on attend le rapport. Il y a eu des fuites dans la presse américaine. Mais d'un côté, vous avez en Russie l'exercice du soft power américain à travers les médias, à travers un modèle de société, liberté, le cinéma, l'art contemporain. Bon. Et de l'autre côté, vous avez quand même des méthodes qui sont plus traditionnelles. Le soft power russe, c'est pas un des domaines d'excellence de de la société russe. Ce qui n'était pas le cas du temps du communisme. Le soft power de la Russie soviétique était considérable à travers les partis communistes, la culture marxiste, le cinéma, etc. Maintenant, c'est pas le cas. Donc, d'un côté, vous avez des choses qui impliquent plutôt les services de sécurité, l'influence organisée, et de l'autre côté, vous avez plutôt du software. Encore que on vient d'arrêter, enfin, je ne sais pas si c'est à titre de représailles, mais les Russes ont arrêté ce qu'ils estimaient être un agent américain, comme quoi on est bien servi des deux côtés.
Vous parliez de fuite dans la presse, le New York Times et le Washington Post ont publié vendredi et samedi dernier des enquêtes selon lesquelles la police fédérale aurait ouvert une enquête en 2017 pour déterminer si Donald Trump travaillait pour le compte de la Russie. Je dis bien travaillait pour le compte de la Russie, ce qui n'est pas quand même une accusation mince. Et l'on se rend compte qu'il y a une surveillance de Donald Trump, j'utilise un mot volontairement neutre, qui remonte aux années 70. À l'époque, Donald Trump fréquentait un mannequin tchécoslovaque, mannequin d'ailleurs qu'il a épousé en avril 1977. Et on se demande en ce moment aux États-Unis si ce mannequin n'était pas aussi une informatrice.
Alors, je crois qu'il faut remonter quand même à aux élections américaines. Il est clair que les démocrates ne peuvent pas s'imaginer qu'ils ont perdu les élections. Donc s'ils ont perdu les élections, si Hillary Clinton a perdu les élections, c'est nécessairement à cause d'une intervention maléfique, notamment de Poutine, que Madame Hillary Clinton avait qualifié de Hitler pendant sa campagne. Donc c'est le deus ex machina qui fait qu'un personnage aussi considéré comme aussi hors norme, inacceptable que Trump soit maintenant président. Donc ça, c'est, il y a un vieux compte à régler, et donc les relations avec la Russie sont devenues otages de la politique intérieure américaine. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne le fait de travailler avec la Russie, qu'est-ce qu'on entend par là? Si à l'époque, c'était une personnalité privée, il y a énormément d'Américains qui ont travaillé pour la Russie à l'époque et qui ont gagné beaucoup d'argent. Si c'est à titre de, d'agent stipendier, rémunéré, d'agent secret, capable de passer des informations, à l'époque, Trump apparemment était simplement un homme d'affaires, hein. Il n'avait pas accès aux secrets gouvernementaux. Mais en tout cas, tout est bon dans l'état de tension actuel entre la Russie et les États-Unis. Le simple fait d'avoir des contacts, même d'affaires, est quelque chose de risqué pour un homme politique.
Alors, des contacts d'affaires, oui, mais il y a un certain nombre de faits troublants. Alors, j'en cite un. Donald Trump, comme on le sait, est un homme d'affaires qui a eu des hauts et puis des bas. Lorsqu'il était plutôt en haut, il avait décidé d'acheter une maison. Alors, comme Donald Trump n'achetait pas des bicoques, cette maison, il l'a achetée 45 millions de dollars. C'est une villa à Palm Beach. Et puis, il a tenté de la mettre en vente. Et comme il s'agissait toujours, non pas d'une bicoque, mais d'une maison un peu plus importante, il l'a mise en vente à 125 millions de dollars, ce qui représente une coquette somme. Il n'a pas trouvé d'acheteur. Et là, la situation financière de Donald Trump s'est détériorée. Et du coup, il fallait vraiment qu'il vende cette maison. Et puis alors là, soudain, un oligarque russe est arrivé à la rescousse, qui a finalement accepté de la lui racheter, Ribovlev. Il la lui a racheté 95 millions de dollars, ce qui a sauvé la mise de Donald Trump, alors même que cet homme, d'après ce que les journaux américains ont trouvé, n'a jamais habité cette maison, laquelle d'ailleurs a même été détruite. Alors, est-ce que justement ce type d'événements, Jean de Gliniasti, n'est pas la preuve qu'il bénéficiait à minima d'une sorte de bienveillance de la part du Kremlin, puisque Dmitri Ribovlev, qui était le roi des engrais, était un oligarque et donc il n'agissait pas de son propre chef, probablement.
Oui, ben, si vraiment c'est une affaire de service, ça se passait quand cette histoire? Ça se passait
2004.
2004, c'est-à-dire donc 15 ans à peu près. ils sont très forts là d'avoir misé pour essayer de le tenir par le biais financier. Moi, je
cette affaire en tout cas est semble-t-il complètement suspecte parce que vous pouvez surpayer une maison parce que vous l'appréciez beaucoup, mais la surpayer pour la détruire, c'est plus
mais plus alors inédit, probablement quoi. Ils voulaient construire quelque chose d'autre parce qu'on détruit, ça coûte cher de détruire.
Oui, apparemment ça coûtait très cher d'ailleurs. Ouais.
Mais donc c'est peut-être une bonne opération des services qui s'y sont pris à l'avance, qui ont misé sur le bon cheval, qui ont il est manifeste que Trump a de bonnes relations avec la Russie depuis longtemps. Il avait essayé d'investir en Russie, ça n'a pas trop marché. Il y a des relations avec les oligarques. De toute façon, on en est à un point d'aggravation des relations entre la Russie et les États-Unis. C'est que quoi que vous fassiez, toutes vos relations avec la Russie sont marquées du sceau des sanctions, de la tension. Il n'est pas du tout exclu qu'il ait été piégé dans cette affaire, mais le
est-ce qu'il serait le seul ? Je veux dire par là, est-ce que l'on a connaissance, Jean de Glignasti, de travaux des services secrets russes pour tenter de piéger des hommes d'affaires, des politiques aux États-Unis ? Est-ce que c'est quelque chose finalement d'assez courant ?
Écoutez, honnêtement, j'en sais rien, parce que je suis pas très familier du monde du renseignement, mais je pense que c'est assez courant dans les deux sens, hein. Ça fait partie de la guerre des services, hein. Et disons que, en général, les Russes en parlent assez peu de ce qu'ils font. Les Américains parlent un peu plus, mais enfin, nous sommes dans une sorte de nouvelle guerre froide. Hein.
Aujourd'hui, il y a 34 inculpations dans l'entourage de Donald Trump par Robert Mueller autour donc de cette enquête. Qu'est-ce qui est aujourd'hui recherché par Robert Mueller principalement ?
Honnêtement, je crois que c'est un homme qui fait son travail, qui va chercher le moindre indice. Je ne pense pas qu'il ait un agenda politique, je ne pense pas, sauf compte tenu de l'hystérie actuellement qui préside aux relations russo-américaines, il va chercher tout indice qui permettrait de montrer qu'il y a des liens entre les Kim Trump et la Russie, et ces liens sont en eux-mêmes fautifs dans le contexte psychologique actuel.
Alors, il y a en particulier Michael Flynn qui a été un éphémère conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. Il est soupçonné d'avoir reçu de l'argent lors de ses voyages à Moscou. Il a eu plusieurs contacts avec l'ambassadeur russe à Washington, Sergei Kisniak. Il y a le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, qui lui aussi est soupçonné d'avoir eu ces liens. Vous qui êtes ancien ambassadeur, Jean de Glignasti, est-ce que ces liens sont communs ? Est-ce que c'est la pratique traditionnelle dans la diplomatie ?
Ben oui, bien sûr. C'est-à-dire, si vous faites de la diplomatie, si vous êtes dans un personnel politique, une équipe politique, un état-major de parti, etc., vous avez des contacts avec l'ensemble des ambassadeurs et des représentants des puissances étrangères à un moment ou à un autre. Le problème, c'est que tout ça est maintenant, j'allais dire, pénalisé ou diabolisé, comme je le disais, compte tenu de ces relations qui deviennent quasiment au bord de l'hystérie, hein, il faut le dire.
Que chercherait Vladimir Poutine aujourd'hui dans ce contexte ?
Vladimir Poutine, il aurait bien souhaité normaliser ses relations avec les États-Unis. Donc ça, c'est en ce qui concerne les États-Unis. Plus globalement, il souhaite que la Russie soit, reconnue comme une puissance autonome et qui compte, et avoir un dialogue sur une base égalitaire, en quelque sorte, avec les États-Unis sur l'avenir de l'Europe, le Moyen-Orient et éventuellement même les relations avec l'Asie. Ce statut lui est refusé par les États-Unis. Et donc, c'est un des éléments des tensions.
Et alors, pourquoi justement ce statut est-il refusé ? On a beaucoup parlé d'une rencontre Trump-Poutine donc à Helsinki. Est-ce que il y a la possibilité que les choses s'améliorent ? La Russie souffre de sanctions économiques. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être levé, selon vous, et dans quel but ?
Alors, les États-Unis n'ont pas, sauf Trump peut-être, paradoxalement, n'ont pas d'analyse stratégique cohérente dans cette affaire. Il est évident que le rival principal des États-Unis, c'est la Chine. qui, elle, a des prétentions pour être la première puissance au monde, même pas simplement un interlocuteur considéré sur une base paritaire par les États-Unis. C'est, ils ont une ambition d'être les premiers. Dans cette affaire, la Russie serait plutôt, par sa culture, par son passé, par son histoire et par son appétence même, plutôt un allié pour les États-Unis. Et ça, c'est l'idée de Trump. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas idiote. Mais de l'autre côté, vous avez tout l'establishment politico-militaire américain qui considère que la Russie est un ennemi commode, qu'elle a l'avantage en plus de créer, via la question ukrainienne et d'autres, une sorte de cancer en Europe qui neutralise un peu l'Europe, qui rend l'OTAN indispensable.
Pourquoi la question ukrainienne, expliquez-nous.
La question ukrainienne.
Oui, pourquoi celle-ci aujourd'hui est instrumentalisée ou serait instrumentalisée par l'Europe? Dans quelle mesure cette question, donc avec la Russie qui considère qu'un certain nombre de territoires sont en fait des territoires russes, tandis que l'Europe considère, elle, qu'il y a une volonté ukrainienne de se rattacher à l'Europe. Qu'en est-il aujourd'hui de cette situation?
Alors, bon, du côté américain, les Américains ont toujours dit, c'est Brzezinski, un certain nombre de penseurs, que si on arrachait...
Brzezinski, l'ancien conseiller sécurité de Carter.
L'ancien conseiller de sécurité de Carter, qui a changé d'avis après. Mais en gros, la base de la doctrine américaine en Europe, c'est qu'il faut arracher l'Ukraine à la Russie, que sans l'Ukraine, la Russie devient une puissance régionale. Bon, on peut discuter de cela, et d'ailleurs Kissinger a dit ensuite l'inverse, et même Brzezinski est revenu sur ce point de vue, mais c'est clair que l'Ukraine, c'est un gros morceau. En ce qui concerne l'Europe elle-même, et les sanctions, la première question que vous avez posée, je crois que l'Europe n'a pas grand chose à dire, ce sont les Américains qui donnent le là. Ils ont décidé de sanctionner
les États-Unis ont décidé de sanctionner la Russie.
Et l'intensité des sanctions, les Européens aussi avaient décidé de le faire, mais ils voulaient le faire à un niveau, parce qu'ils ont de gros intérêts économiques, à un niveau plus modeste. Et je crois que les Américains ont poussé pour l'aggravation successive des sanctions. Quant à l'Ukraine, c'est une question très difficile, puisque c'est un pays qui est divisé en deux ou trois modes de sensibilité, avec un peuplement russophone à l'est, avec une tradition plutôt occidentale et nationaliste à l'ouest, avec influence de l'Autriche-Hongrie à l'époque, de la Pologne. C'est un pays qui n'a jamais eu un État. Et donc, en fait, il faut trouver un modus vivendi en Ukraine. Et ce modus vivendi, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, on ne l'a pas trouvé.
Et si on ne le trouve pas, est-ce que ça signifie, puisque vous l'avez rappelé, il n'y a pas eu une opinion publique homogène en Ukraine? Est-ce que une solution homogène, unique pour la totalité du territoire ukrainien, est possible selon vous, Jean de Guignasti?
Alors, il est clair que les événements et la gestion de la crise par la Russie a fait qu'il y a un sentiment nationaliste assez profond qui s'est exacerbé en Ukraine et qui a même mordu, si je puis dire, sur la zone russophone. Cela dit, une solution, c'est toujours une solution fédérale ou confédérale qui permet aux instances plutôt pro-russes, aux régions plutôt pro-russes de parler leur langue. Et puis aussi, dans le règlement, il y a le fait que l'Ukraine ne doit pas rentrer dans l'OTAN, parce que ça, c'est un casus belli, évidemment, pour les Russes.
Jean de Guignasti, on se retrouve dans quelques minutes. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur en Russie. Vous avez notamment publié Géopolitique de la Russie. Vous serez rejoint dans quelques minutes par Amaël Guiton. Elle est journaliste à Libération et spécialiste des enjeux de cybersécurité. Et on verra comment aujourd'hui le rôle de la Russie sur Internet se dessine avec ce qu'on appelle des fermatrolls. On verra comment on élève ce genre d'animaux. Il est 8h sur France Culture. De Moscou à Washington, jusqu'où va l'influence de la Russie? Fermatroll, fausse page Facebook, bots sur Twitter. Les bots, ce sont des robots qui permettent de diffuser des messages sans qu'il y ait nécessairement d'intervention humaine. Piratage d'emails politiques embarrassants, propagande sur Russia Today, du Brexit au mouvement des Gilets jaunes, en passant par l'élection de Donald Trump ou la montée des partis populistes italiens. plus aucune analyse ne semble complète si elle n'évoque pas, sous une forme ou sous une autre, l'influence de Moscou. Si l'existence de plusieurs campagnes de déstabilisation des démocraties occidentales orchestrées depuis Moscou ne font plus aucun doute, quelle est la portée réelle de l'influence de la Russie dans les événements du monde? Pour en discuter, nous sommes en compagnie de Jean de Glignasti. Vous êtes ancien ambassadeur en Russie, directeur de recherche à l'IRIS et vous avez notamment publié Géopolitique de la Russie. Et nous accueillons Amaël Guiton. Bonjour, vous êtes journaliste à Libération et spécialiste des enjeux de cybersécurité. Amaël Guiton, il faut tout d'abord définir un certain nombre de termes et tenter de voir, depuis ce qu'on appelle maintenant les fermatrolls jusqu'aux bots sur Twitter, qu'est-ce qui est aujourd'hui disponible comme arsenal pour tenter d'intervenir sur Internet pour un pays, pour une société, bref, pour quiconque souhaite peser dans le débat sur la toile.
Dans le cas de la Russie, ce qu'on arrive à reconstituer aujourd'hui, avec le recul, avec divers rapports de commissions parlementaires américaines, avec les inculpations aussi du procureur Mueller, c'est qu'il y a eu, je dirais, deux grands volets. Le premier, d'ailleurs, qu'on a vu apparaître, c'était plutôt celui du piratage des emails du Parti démocrate, sachant que ce qui était frappant à l'époque, quand ça a été annoncé, c'est que les premières entreprises qui avaient travaillé sur ce piratage disaient il y a deux acteurs, en fait, qui se sont introduits dans le réseau du Parti démocrate. Un qu'ils attribuaient au renseignement militaire et l'autre au contre-espionnage russe. Et il semble que ce soit plutôt la partie renseignement militaire, en fait, qui ait décidé de s'en servir pour diffuser massivement ces emails, ce qui était, à mon sens, en tout cas, assez inédit, du moins à cette échelle. Il y a eu des sites web ad hoc qui ont été créés à l'époque. C'est probablement de cette manière que tout ça a été transmis à Wikileaks. Donc là, on est effectivement dans de l'exposition brutale et massive de données qui sont des données authentiques, par ailleurs, pour le coup. Et puis alors, il y a l'autre aspect qui est celui de cette fameuse fermatrolle, l'Internet Research Agency de Saint-Pétersbourg, où là, on est plus effectivement dans les faux comptes Facebook, dans la dissémination de fausses informations, etc. Donc on a vraiment un peu ces deux aspects qui finissent par se rencontrer, même si à l'heure actuelle il n'y a toujours aucune preuve d'ailleurs d'une coordination entre ces deux aspects, mais où on voit que effectivement des actions offensives cyber, comme on dit, c'est-à-dire des actions de piratage, peuvent avoir pour objectif non plus seulement de l'espionnage, mais une forme une campagne d'influence, et puis de l'autre côté de la désinformation ou même appuyer sur les fractures d'une société en utilisant des informations authentiques, parce que ça se fait aussi, là encore à des fins d'influence. Donc on a un peu ces deux aspects.
Et aujourd'hui, de quoi est-on certain? Alors lorsque vous parlez par exemple de piratage des boîtes mail du Parti démocrate, que sait-on? Alors les mails, on les a, leur authenticité, elle n'a pas été discutée, ce sont de vrais mails. Comment celui qui les a exposés se les est procurés? Que sait-on sur, justement, la nature de cette puissance qui s'est procuré ces mails, dit-on?
Alors là, pour le coup, c'est toujours ce qui est assez complexe. C'est-à-dire qu'il y a une enquête technique qui prouve qu'effectivement, au printemps, deux groupes de cyberattaquants, de manière d'ailleurs pas nécessairement coordonnée, semble-t-il, se sont introduits dans le réseau du Parti démocrate. Et en utilisant des techniques d'ailleurs qui sont pas forcément extraordinairement complexes, on a un peu de tout. L'exemple frappant, c'est venu après le piratage du comité démocrate, mais le piratage, par exemple, des mails du directeur de campagne de Hillary Clinton, John Podesta, s'est fait en utilisant ce qu'on appelle une technique de hameçonnage, c'est-à-dire en le dupant pour récupérer son mot de passe, ce qui est une technique pour le coup assez triviale, pas compliquée à mettre en place, mais qui fonctionne
assez robuste,
remarquablement bien. Donc après, la question de l'attribution proprement dite, qui est une question très très complexe et à laquelle d'ailleurs les différents gouvernements ne répondent pas de la même manière, puisque certains font de l'attribution publique et d'autres n'en font pas, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que c'est une décision politique à un moment donné d'un gouvernement de dire on estime que c'est tel État qui nous a attaqués.
Et il y a aussi d'autres techniques qui, semble-t-il, ont été utilisées. Alors, on parle beaucoup en ce moment de ferme à troll. Qu'est-ce que c'est?
C'est cette fameuse donc Internet Research Agency de Saint-Pétersbourg sur laquelle ont travaillé notamment pas mal de médias américains. On parle aussi d'usines à trolls, ce qui est manifestement un bon terme, hein, c'est-à-dire des gens qui sont payés et qui manifestement d'ailleurs étaient plutôt bien payés finalement, bah, pour créer des fausses pages, pour créer du contenu, pour le rendre viral, etc. quoi. C'est une espèce de, oui, d'industrialisation.
Donc ça se trouve en Russie, à Saint-Pétersbourg, ouais. Comme vous venez de le dire. On est capable d'en mesurer l'importance?
C'est toujours, alors ça, c'est vraiment la question qui est la plus compliquée, c'est quel a pu être l'impact de ces campagnes. C'est vraiment là-dessus qu'il y a une espèce d'angle mort, parce que c'est quasiment impossible à mesurer, ou en tout cas il faudrait des études, et alors là pour le coup des études de chercheurs.
Alors parce qu'en fait il y a deux choses, il y a d'abord le nombre de personnes qui travaillent dans ces fermes ou dans ces usines à trolls, ce qu'elles produisent. Est-ce que là on est capable de mesurer le volume de messages qu'elles peuvent diffuser? Est-ce que ça a un sens par exemple de raisonner de cette manière-là, Amel Guiton, vous qui suivez ces dossiers-là pour Libération?
Bah pour le coup les derniers éléments entre guillemets chiffrés qu'on a eu, c'était des rapports commandés par le comité du renseignement du Sénat américain. Et je crois qu'ils évaluaient... Alors, en 2017 déjà, Facebook avait évalué à peu près à 126 millions d'utilisateurs ceux qui avaient pu être exposés à ce type de contenu. Et dans les rapports commandés par le Sénat, on était à quelque chose comme 76 millions d'interactions sur Facebook, 187 millions sur Instagram. Donc on est effectivement dans des chiffres assez massifs en termes d'exposition. Mais la question, c'est toujours la même, c'est-à-dire à partir d'une exposition, quel impact ça peut avoir? Là, pour le coup, c'est vraiment tout autre chose.
Jean de Guignasti, une réaction.
D'abord, je voudrais réagir à votre présentation qui est très brillante et très intéressante, mais rapide, parce que vous dites à un moment, les tentatives de déstabilisation russe sur le régime occidental ne font aucun doute. Alors moi, je ne sais pas d'où vous tirez ça, mais je réagis à cela parce que donc c'est la première chose, parce que je pense, et ça rejoint notre discussion générale, qu'il y a des forces politiques profondes qui déstabilisent, j'allais dire, le monde assez politiquement correct qui existait avant. Elles sont les mêmes en Russie, aux États-Unis, en Hongrie, en Italie, partout. Et ces forces politiques profondes qui touchent en fait aux structures mêmes de nos sociétés, en fait, on les habille de systèmes. Alors c'est la faute des Russes, c'est la faute des trolls, c'est la faute de... etc. Et en fait, nous sommes un peu dans le déni quand nous disons ça par rapport à des évolutions des plaques tectoniques politiques qui sont importantes et qu'il faut prendre en compte. Donc ça, c'est une remarque générale que je voudrais faire. C'est facile de dire que Poutine est derrière le Brexit, Poutine est derrière Salvini, Poutine est derrière Orban. Mais c'est un peu court en termes d'analyse politique et je voulais souligner ça.
Donc ça, c'est le premier point sur lequel je vous répondrai, mais développez votre second point.
Pardonnez-moi.
Non, mais vous avez raison de dire...
Deuxièmement, je voudrais dire que, alors évidemment, aux États-Unis, c'est particulièrement fort, comme je l'ai dit tout à l'heure. Madame Clinton ne peut pas s'imaginer qu'elle ait pu perdre les élections sans une intervention massive du méchant Poutine qu'elle a qualifié de Hitler, comme je l'ai dit. Donc, mais quand on regarde, l'informatique, c'est l'arme du pauvre, en fait. C'est l'arme du pauvre, c'est-à-dire il suffit d'un hacker, d'une bonne tradition geek dans un pays, ce qui est le cas en Russie, il y a une vraie tradition. Je rappelle que la Russie a 13 000 serveurs indépendants russes sur le territoire russe. En France, il y en a 10. C'est-à-dire qu'ils ont préservé une sorte d'autonomie, d'action en termes cybernétiques que nous n'avons pas et que seuls les États-Unis et un peu la Chine commencent à avoir. Donc c'est un grand pays cybernétique. A fortiori, en mettant un peu de moyens, ils arrivent à interférer. Comme l'a dit madame, effectivement, il y a beaucoup de lecteurs, mais personne ne peut savoir que ces tweets ou s'ils ont de l'influence ou pas. Encore une fois, je crois qu'on est un peu dans le déni d'une évolution politique majeure. Dernière remarque que je voudrais faire, c'est que quand vous comparez le soft power russe au soft power américain, il faut pas plaisanter. D'un côté, il y a toutes les analyses du Sénat américain, des démocrates, des think tanks américains, tout ça est répercuté systématiquement dans la presse française. Le software russe, c'est rien, c'est zéro. C'est quelques geeks dans un immeuble, bien payé certes, comme l'a dit madame, dans un immeuble de Saint-Pétersbourg. Encore une fois, l'arme informatique, c'est l'arme du pauvre. pauvres. On peut le faire au Pakistan, on peut le faire, on voit très bien, des hackers qui viennent du monde entier avec très peu de moyens.
Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut bien distinguer. Il y a tout d'abord une volonté russe de peser, et cette volonté, elle va se traduire par exemple par cette ferme à trolls qui a été aujourd'hui visitée, dont l'existence est répertoriée, et donc on voit qu'il y a une volonté par cet intermédiaire-là, par Russia Today, de la même façon qu'Al Jazeera est aussi un autre instrument d'influence pour un autre pays. Bref, on voit qu'il y a une stratégie russe, et ça, c'est quelque chose, à mon sens, qui ne fait aucun doute. Mais vous êtes évidemment libre, Jean, de vouloir relativiser cela ou pas, d'ailleurs. Et alors, la seconde chose qui est effectivement quelque chose de très discuté en sciences sociales, c'est la manière dont c'est tentatives d'influence agissent. Donc, Paul Lazarsfeld, qui a beaucoup travaillé, qui est l'un des fondateurs de la sociologie des médias, se demandait dans quelle mesure l'opinion était manipulable, et il avait plutôt tendance à répondre non, qu'elle ne l'était pas. Aujourd'hui, avec d'autres diffusions et d'autres utilisations, peut-être que Lazarsfeld, qui aujourd'hui a été arraché à notre affection, aurait un autre point de vue là-dessus. Mais je pense que c'est important de distinguer ces deux choses, et c'est d'ailleurs ce que vous faisiez, Amel Guiton. D'un côté, on a des stratégies, de l'autre, bon, quelle est leur efficacité, ça c'est quelque chose à déterminer.
Oui, c'est juste effectivement pour prolonger le débat. D'ailleurs, d'abord, la guerre informationnelle, effectivement, c'est quelque chose qui est utilisé par absolument toutes les puissances, et la Russie n'en a pas l'apanage. Donc on voit bien aussi qu'on est dans un moment politique qui met l'accent sur tel ou tel acteur, mais ça peut évoluer. Et d'ailleurs, pour le coup, pour ce qui est du paysage cyber, comme on dit. On voit bien aujourd'hui, par exemple, que les États-Unis commencent de plus en plus à accuser la Chine, par exemple, de piratage, qu'on voit aussi la manière dont les attributions s'inscrivent toujours dans un contexte géopolitique lourd. Ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est que je me souviens d'avoir, en décembre 2016, épluché le premier rapport officiel du renseignement américain sur ce qui s'était passé pendant la présidentielle, et notamment les actions de piratage. J'avais été, en fait, extrêmement frappée à la lecture de ce rapport de voir la manière dont il répondait presque en miroir à la doctrine russe de l'espace informationnel. C'est-à-dire que traditionnellement, il y a un peu deux visions du cyberespace. Il y a une vision, on va dire, qui s'appuie beaucoup sur les réseaux, sur l'infrastructure. Et puis, il y a une vision, effectivement, en Russie, qui est plus de l'entendre comme un espace informationnel en prenant en compte, y compris la couche des contenus. Et en fait, on se rend compte que les États-Unis ont répondu à ce qui leur est arrivé pendant la présidentielle. Et je pense qu'il y a eu une forme de traumatisme. C'est un côté géant au pied d'argile qui tout à coup se retrouve face à quelque chose qu'il n'avait pas forcément vu arriver. Ils y ont répondu finalement en ayant presque la même lecture, c'est-à-dire en décrivant une stratégie très concertée d'agression, alors même qu'on a... C'est un aspect sur lequel on n'a pas encore tous les éléments. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas, par exemple, de preuve d'une coordination opérationnelle entre le renseignement russe et la ferme à trolls. On peut être sur des choses parfois plus molles. Vladimir Poutine lui-même fait régulièrement des plaisanteries, on va dire, sur les hackers patriotes. Ça fait aussi partie du paysage, c'est-à-dire l'existence d'acteurs qui ne sont pas forcément directement liés à l'appareil d'État russe, mais qui, pour autant, pour des raisons idéologiques, vont aller dans le sens des intérêts de la Russie.
Jean de Gnasty, votre réaction ?
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est une analyse assez subtile des choses. C'est-à-dire que il y a un tel développement de l'informatique en Russie qu'effectivement, les hackers nationalistes, et on leur laisse bien entendu la porte un peu plus ouverte qu'aux hackers, considérés comme démocrates ou contestataires.
Sur la Chine ? Sur ce qui a été dit, parce que là aussi, il y a de plus en plus de soupçons. Alors, cela porte aussi bien sur des techniques traditionnelles que sur des techniques maintenant liées au hard, un certain nombre de matériel. On a vu monter, par exemple, le soupçon à l'égard de Huawei.
Oui, absolument.
Peut-être une réaction là-dessus, Amel Guiton. Donc, Huawei, qui est une marque de téléphone portable, notamment, et de matériel informatique.
Et qui est surtout un équipementier, en fait. C'est notamment la question se pose parce qu'aujourd'hui se développe le réseau 5G et que Huawei est un équipementier absolument majeur. Et on voit bien comment, effectivement, le contexte du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine appuie aussi sur sur cette situation, et où Huawei se retrouve, pas persona non grata, mais entreprise non grata, en tout cas dans les réseaux télécoms aux États-Unis, au Canada, etc.
Et on voit bien que... À juste titre ou pas, selon vous ?
C'est toujours compliqué, c'est-à-dire qu'on attend toujours une preuve tangible que le matériel de Huawei pourrait être particulièrement problématique ou permettre de
l'espionnage. Mais d'un autre côté, on n'a plus besoin de preuves, pour le coup, que, par exemple, Facebook ou d'autres applications sont à même de diffuser des renseignements privés. Alors, pas forcément en direction donc là d'une puissance, mais en direction d'autres sociétés, vendre des données. C'est quelque chose qui est aujourd'hui établi, il n'y a plus aucune discussion à cet égard.
Ah de toute façon, qu'il y ait des échanges de données, voilà, c'est encore une autre partie, le fameux scandale Cambridge Analytica, du nom de cette entreprise de marketing politique, qui avait donc siphonné des données pour faire du ciblage publicitaire à des fins politiques. Au moment d'ailleurs de la présidentielle américaine et dans la campagne du Brexit, ça a montré effectivement à quel point le système Facebook était poreux. Mais ceci dit, ça rejoint d'ailleurs en partie la question des fermatrolls, au sens où ce qui permet aussi la diffusion virale de contenu, de désinformation ou les campagnes d'influence, c'est aussi l'infrastructure même des réseaux sociaux, l'existence d'énormes acteurs centralisés et leur modèle économique même. C'est-à-dire que qu'est-ce qui permet de faire de la publicité ciblée, c'est aussi le modèle, l'infrastructure de Facebook qui permet de faire de la pub ciblée.
Jean de Guignasti, votre réaction ?
Moi, je crois que Chine, Russie, etc. n'en sont qu'au balbutiement. Nous avons une puissance absolument écrasante en termes de soft power, qui est absolument stupéfiante dans tous les domaines, c'est les États-Unis, à la fois en termes de matériel, en termes de logiciel, en termes de formation des élites, en termes de mainmise sur les médias, en termes de réseaux Netflix, Facebook, etc. Tout ça, donc il y a un ensemble à la fois culturel, intellectuel, qui pénètre, qui imprègne toutes les sociétés et qui, en fait, c'est la mondialisation américaine. Donc, il y a un déséquilibre. Alors, les autres commencent à apprendre. Donc, les Russes apprennent vite, les Chinois encore plus vite, et c'est appuyé sur du matériel. Mais, comme le disait Pascal Boniface dans Requiem pour le monde occidental, c'est le début de la fin, mais il y a encore du temps.
Oui, mais alors, le problème, si vous voulez, Jean de Guignasti, c'est qu'il y a probablement du soft power de la part de toutes les nations, y compris d'ailleurs la France. Mais, a priori, la France, sauf si vous n'êtes pas d'accord avec cette assertion, a priori, la France ne souhaite pas fausser le jeu démocratique. On peut soupçonner, alors on a peut-être tort de le faire, mais en tout cas, d'aucuns le feraient aisément, la Russie, par exemple, ou la Chine, de vouloir peser sur le jeu démocratique de manière antidémocratique. Vous avez l'air de me trouver extrêmement candide.
Oui, enfin, je trouve très bien qu'on défende les intérêts de notre pays, mais nous ne sommes pas gênés pour intervenir dans les élections africaines. Quand c'est dans
par notre... le biais du soft power, vous pensez ?
Ah ben oui, notamment, enfin, mais le soft power, c'est autre... un système qui se déroule. La force du soft power américain, c'est que ça se déroule tout seul. Vous n'avez pas tellement besoin d'influer, c'est que c'est les gens, c'est un choix individuel de chaque personnalité en faveur d'un modèle américain. Donc soft power, hard power, soft power dirigé, soft power libre, tout ça s'articule. Mais tous les pays du monde ont tendance à soutenir leurs amis et plutôt à gêner les choses pour leurs ennemis. Et dans les élections et partout, c'est une règle générale depuis le début de la démocratie.
Amel Guiton, sur les techniques que l'on voit poindre, donc il y a aujourd'hui un éventail de techniques. Pensez-vous, par exemple, que la France utilise ça ? Alors, on sait bien qu'il y a une sphère d'influence de la France qui ne relève pas nécessairement de ce qui est officiel et public. Est-ce qu'il y aurait aussi la possibilité de découvrir un jour une fermatrolle française ? Est-ce que
c'est écoutez, pas à ma connaissance. Moi, pour le coup, je fais pas de politique fiction. J'attends toujours des faits et j'attends toujours des enquêtes sur ce genre de choses. Je vous avoue que ça me paraît quand même. Il vaut mieux se reposer sur des faits, sur des choses solides, plutôt que d'émettre des hypothèses.
Alors, avant de faire de la politique
fiction, j'espère qu'il y en a, moi.
Vous espérez vous...
des fermatrolles, bien sûr.
Mais vous pensez que...
C'est un attribut de la puissance. C'est un attribut de la puissance. Et j'espère que la France en a suffisamment pour pouvoir faire ça.
Parce que le désavantage concurrentiel qu'a la France par rapport à cela, c'est que la plupart des sociétés qui sont aujourd'hui largement présentes sur Internet ne sont pas françaises. Elles sont américaines. Il y a eu un certain nombre de...
Chinoises ou russes.
Non, mais ceci dit, effectivement, la plupart des sociétés sont américaines, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le paysage des réseaux sociaux est majoritairement structuré par ces sociétés-là. Pas partout, hein, par ailleurs, parce que il y a précisément deux pays où ça n'est pas le cas et où ils ont leurs propres réseaux sociaux, c'est justement la Russie et la Chine. Ce qui est intéressant de voir émerger...
Ce qui veut dire que Facebook, par exemple, n'est pas présent en Russie?
Bah, il y avait Contact qui est beaucoup plus massivement utilisé. C'est-à-dire, ils ont leur propre Facebook. Il y a un écosystème pour des raisons historiques, linguistiques, etc., qui s'est développé depuis plusieurs années, qui a été d'ailleurs petit à petit plutôt repris en main de manière assez offensive par des oligarques liés au Kremlin. Mais au départ, ça s'était plutôt fait de manière d'ailleurs assez indépendante. Il y a un équivalent de Google, il y a un équivalent de Facebook, etc. La Chine a aussi ses propres réseaux sociaux. Il y a un Twitter chinois. Ce qui est intéressant, ceci dit, de voir émerger, c'est la manière dont aujourd'hui la Chine se pose aussi en contre-modèle. Moi, j'ai été assez frappée de voir, par exemple, qu'au moment où se tenait d'ailleurs à Paris le forum sur la gouvernance de l'Internet qui rassemble un certain nombre d'acteurs de la société civile, d'entreprises, etc., s'était tenu, je crois, une semaine avant, un équivalent en Chine. Et on voit aussi, effectivement, la puissance chinoise affirmer véritablement un contre-modèle par rapport au modèle américain.
Jean de Glignasti, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a la possibilité pour la France ou la possibilité pour les États-Unis soit de répondre à cette influence-là, ou bien cela relève uniquement de stratégie politique? Vous évoquiez tout à l'heure, par exemple, le discours des démocrates qui tendait à diaboliser la Russie parce que c'était, selon vous, une explication facile à leur défaite. Est-ce que c'est véritablement du pur cynisme, ou bien est-ce que les pays ont aujourd'hui intégré ça dans leur stratégie?
Alors, d'abord, je souhaite effectivement que mon propre pays ait le maximum de levier en faveur de sa propre politique. Donc je ne diabolise personne. Hein. Je constate simplement que le déséquilibre de puissance en termes de soft power, et notamment dans le domaine informatique, entre les États-Unis et le reste du monde, est abyssal. Donc le temps qu'on consacre à la malheureuse usine à trolls, en fait, c'est tout simplement parce qu'ils sont occupés des élections américaines, et que les élections américaines sont iconiques, que la démocratie américaine, c'est quelque chose de sacré. Quand on y touche, on touche à l'ensemble du monde occidental, un monde occidental qui lui-même est en train de prendre des coups, comme le dit un ouvrage récent. Donc, c'est-à-dire de l'intérieur.
Quel ouvrage ?
Ça s'appelle Requiem, j'étais en train de lire ça, Requiem pour le monde occidental de Pascal Boniface, qui montre qu'en fait, il y a tout un processus artificiel pour cimenter un monde occidental qui n'a plus de justification, plus lieu d'être. C'est un jeu. La seule chose dont on puisse se désoler, c'est que la France n'a pas les mêmes leviers financiers de puissance, et que l'Europe n'est pas, malheureusement, suffisamment formé pour pouvoir le faire.
Un mot de conclusion, Amaël Guiton. Sur les fermes à trolls, donc là, aujourd'hui, il y a eu des reportages. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir pour pouvoir mesurer ce qui est véritablement fait par la Russie et les autres pays dans ce domaine-là.
Bah, de toute façon, ça, c'est quand même la grande difficulté. C'est qu'on est dans une espèce de brouillard de guerre informationnelle permanent, parce que, justement, c'est toujours... C'est jamais évident de remonter à l'origine de ce qui se passe, enfin à l'origine de phénomènes qui se passent en ligne comme ça. Et donc petit à petit, on déroule une pelote. On commence effectivement en savoir plus sur ce qui vient de manière générale de la Russie. Et je pense qu'on découvrira probablement des choses sur d'autres pays par la suite. Oui.
Amaël Guiton, on vous retrouve dans les colonnes de Libération, Jean de Glignasti. Et on vous retrouve par exemple dans Géopolitique de la Russie, publié aux éditions Erol. Merci à tous les deux.